sur 50.
Et ne veulent entendre parler d'aucun consensus.
Alors, on a demandé de marquer ben, go sport en grève. On aurait pu rajouter d'autres termes, hein, comme ras-le-bol de la pression, les menaces.
On pourrait rajouter que ce qui est affolant, c'est qu'ils sont prêts à dépenser des sommes astronomiques pour entraver notre grève, tout simplement.
Ceux qui appellent, en tout cas,
et ne veulent entendre parler d'aucun consensus.
Salut tout le monde, lundi 24 octobre.
Ça commence bien.
Radio Canu Info, la plus rebelle des radios. Donc aujourd'hui, pour l'info, on va vous parler pour l'international du rejet du CETA par les Wallons. Également de la formation du gouvernement espagnol après 9 mois de transhumance. Et de l'Argentine, féminicide et de Wonder Woman qui sera bientôt l'ambassadrice. Oui, et embarrassante aussi. Hein. De la cause des femmes. D'un point de vue national, ça sera Bernard Arnault et l'économie, la manif des flics, le désarmement de la police à Saint-Étienne, l'arrestation et surtout la détention depuis plus de 30 ans de Georges Ibrahim Abdallah, notre national copé et ses pains à la merde, ainsi que un tumbler féministe. On aura également le plaisir de parler de ce qui se passe à Calais et le déplaisir de parler du démantèlement de la soi-disant jungle, de la ferme urbaine lyonnaise également et de l'expulsion des personnes âgées juste avant la trêve hivernale. Et le sujet reportage du jour sera sur la Syrie. Et il y aura quelques lectures colériques après ça et l'annonce traditionnelle de l'agenda.
Alors, on commence avec l'actualité internationale. Alors, aujourd'hui, toute l'Europe est occupée par la pensée néolibérale. Toute ? Non, une petite province belge, résiste encore et toujours à l'envahisseur. Il s'agit de la Wallonie. Donc, en effet, aujourd'hui se tenait en Belgique le comité de concertation ayant pour but d'aboutir à un accord au sein du pays concernant le CETA, le traité de libre-échange avec le Canada. La Wallonie ayant refusé de donner son accord, c'est tout le pays qui se voit dans l'obligation de s'opposer au traité face à une Union européenne pour l'instant unanimement favorable. Donc hier, dimanche 23 octobre, le président du Conseil européen, Donald Tusk, a lancé un ultimatum au Premier ministre belge, Charles Michael, pour que celui-ci... Ah, apparemment je ne parle pas dans le micro, tant pour moi. Donc pour que celui-ci aboutisse dès aujourd'hui à un consensus sur la question... du traité. Et cet ultimatum est jugé incompatible avec le processus démocratique par le président wallon, Paul Magnette. Donc pourquoi refuser ? Donc la principale critique porte sur la protection des investissements à travers un tribunal d'arbitrage dont les conditions d'interpellation des États par les investisseurs poussent à la controverse, car il permet à des entreprises privées de poursuivre un État si celui-ci décide de mettre en place certaines restrictions concernant la commercialisation de produits. Et ces restrictions peuvent porter sur des raisons environnementales ou sanitaires. Ainsi, il existe des exemples comme celui de l'Australie où l'État a perdu face aux fabricants de tabac qui lui reprochaient des mesures trop restrictives. Une autre critique est celle de la convergence des normes. Il s'agit de réduire les barrières tarifaires, d'une part, c'est-à-dire les taxes douanières, et les barrières non tarifaires. Par exemple, la suppression de normes protectionnistes, comme favoriser la production locale ou interdire des produits ne respectant pas certains critères de fabrication ou certains critères environnementaux. Quelles sont les conséquences de cette opposition ? Donc la position wallonne bloque l'avancée des négociations. L'absence d'acceptation de la part de la Belgique entraînera l'annulation du sommet de la signature prévu le jeudi 27 septembre prochain. En effet, pour que le traité aboutisse, il faut que les 28 pays de l'Union européenne donnent leur accord. Donc il s'agit là d'une cette opposition belge représente une aubaine pour les peuples européens, pour beaucoup sceptiques face au CETA. Donc pour information, en France, le secrétaire d'État au commerce extérieur Matthias Fekel, bien qu'il ait été opposant au TAFTA en première instance, a allègrement donné son aval au CETA. Et donc la Belgique, qui est le pays le plus moqué de l'Union européenne, sera pourtant le seul à prendre une position courageuse dans cette affaire.
Et maintenant, on se dirige vers l'Espagne. Alors, en Espagne, il se passe quelque chose dont les anarchistes ont toujours rêvé sous Franco. Une absence de gouvernement. Enfin, c'est pas tout à fait le cas, parce qu'on a toujours, alors bon, je suis pas très hispanophone, mais Rajoy, qui est président par intérim actuellement. En fait, en gros, vous avez le Parti Socialiste qui vient de conclure un accord, finalement, avec le Parti de droite, sachant que le Parti Socialiste, en Espagne, s'appelle le Parti Socialiste Ouvrier. Je tiens à le préciser. Alors, ces petits gens de gouvernement, ces petits politiques ont choisi donc de s'allier avec le parti de droite. En gros, l'idée, c'était de contrer à la fois Podemos et à la fois le parti centriste, le parti de Ciudadanos, qui posait quand même pas mal de problèmes. Le Parlement se retrouve fragmenté. Donc, si l'alliance n'était pas faisable, et ben, pour préserver en gros le système actuel et puis les privilèges de ces dirigeants espagnols, peut-être que Podemos ou Ciudadanos auraient pu trouver plus de voix. En tout cas, ce qu'on retient de ça, c'est que le Parti Socialiste dit vouloir abroger la loi sur la sécurité, la loi sur l'éducation et la loi travail espagnole. Alors on a envie de leur rire au nez en leur disant bah, « chez nous, le PS n'a pas été capable de le faire, c'est même eux qui l'ont mis en place, donc on ne voit pas comment vous, avec votre petit pouvoir, vous pourriez contrer ce parti de droite et contrer finalement toute l'idéologie néolibérale qui est en train de traverser l'Europe aujourd'hui. Et pour en prendre un célèbre philosophe, nous disons gauche-droite, c'est la même chose, on en a marre.
Ok, donc là on va se diriger donc, en Amérique du Sud. Le 19 octobre à Buenos Aires, s'est organisée une grande manifestation donc, féministe. Féministe car ce sont des milliers de femmes qui ont marché donc, sous une pluie battante et un froid de canard vers la Casa Rosario. La Casa Rosario, donc, c'est la municipalité donc, de la ville, de la capitale d'Argentine, suite au féminicide de Lucia Pérez. Lucia Pérez est une jeune femme de 16 ans, qui a été droguée, violée et violentée par deux hommes. C'est la 19e femme donc assassinée donc ce même mois donc d'octobre à Buenos Aires. Rappelons que toutes les 36 heures en Argentine décède une jeune femme suite aux violences conjugales et au Brésil c'est toutes les 2 heures. Ce mouvement de ras-le-bol et féministe prend une ampleur de plus en plus importante donc en Amérique du Sud et demain donc le mouvement Ni Una Menos pas une de plus voilà au Brésil va également se réunir donc demain au Brésil. Pour également dénoncer la violence faite aux femmes et demander donc aux États d'agir. Le terme donc féminicide a été inventé donc par la féministe mexicaine Marcela Lagarde, qui correspondrait donc selon elle à la somme totale de crimes contre l'humanité comprenant des actes criminels, c'est-à-dire d'enlèvement et disparition de filles et de femmes dans un contexte d'effondrement institutionnel. Donc elle considère donc cette féministe Marcela Lagarde que le féminicide est un crime d'État. Selon l'ONU, donc 14 des 25 pays et un taux de féminicide le plus important se trouve en Amérique latine. En même temps, l'ONU, sous l'égide donc, de Ban Ki-moon, a désigné une femme virtuelle, c'est-à-dire Wonder Woman, pour devenir la nouvelle ambassadrice de l'ONU pour l'émancipation des femmes. C'est donc Wonder Woman qui défendra donc, la nouvelle campagne destinée à promouvoir l'égalité homme-femme. Voilà. Donc, un choix donc, ridicule et contesté au sein de l'ONU, donc, institution qui est, rappelons, ils vont appliquer la parité donc homme-femme. En exemple, donc il y a une femme seulement au Conseil de sécurité. Mais heureusement, donc, l'âge jaune de la communication de Ban Ki-moon s'est fendu d'un communiqué. Donc, les valeurs incarnées par Wonder Woman comptent plus que son apparence. En attendant, rappelons qu'en France, c'est une femme tous les trois jours qui décède suite aux violences conjugales. Et je ne pense pas que Wonder Woman, qui nous sauvera donc de la violence et stupidité patriarcale.
Alors, au niveau national, on a eu le droit hier soir au JT de France 2, fait par de la Housse, à un invité très très spécial qui se fait plutôt rare sur les plateaux de télévision. On se demande pourquoi. On pourrait peut-être dire parce qu'il est peut-être trop visible en salle grâce au film Merci Patron. Donc on a pu voir à l'écran en fait Bernard Arnault.
C'est lui, hein.
Qui était présent en fait pour soi-disant parler d'art et parler notamment en fait de la collection Stouchkine, qui est une collection en fait qui a pu être amenée en France récemment via la fondation Louis Vuitton, une des fondations de Bernard Arnault. Et donc du coup, on peut admirer en ce moment Cézanne, Gauguin, les peintres modernes, Picasso, Matisse, etc. Bref, en gros, ce monsieur semble avoir quand même assez de poids politique pour pouvoir peut-être faire venir, notre très cher Poutine, même si bon, il y a eu une non-venue. Mais en tout cas, c'est un homme de pouvoir. Et c'est un homme de pouvoir qui dit ne pas vouloir parler de politique. Voilà ce qu'il a dit hier soir au journal. Il a dit pas vouloir parler de politique. Par contre, il a voulu parler d'économie, de ses sentiments vis-à-vis de l'économie. Or, on sait très bien que l'économie, elle est politique. On appelle ça l'économie politique, d'ailleurs. Et l'économie politique, c'est quoi ? C'est la répartition des richesses, par exemple. C'est la manière dont on va gouverner. C'est la manière dont on va créer des accords transatlantiques, etc., etc., etc. Un groupe multinational comme ça, en fait, a un poids énorme dans ce type d'économie politique qu'on vit actuellement, en tout cas en France. Il a aussi parlé de protectionnisme. Alors, ça a été très drôle quand même de voir qu'il disait que les dirigeants français parlaient beaucoup trop de protectionnisme, qu'il fallait se mondialiser, etc., etc. Le problème, c'est que de quoi parlait-il vraiment ? Il disait « Le protectionnisme est très mauvais pour le bien-être du peuple, de la croissance internationale. Il est très mauvais pour l'augmentation du niveau de vie. » Mais de quoi parlait-il vraiment ? Je pense qu'il parlait plutôt de cette rhétorique du progrès, du développement, etc., associée à un langage de bien-être qui fait confondre à Bernard Arnault la croissance économique de son propre groupe à la situation économique de la France. La première des choses qu'on peut lui rétorquer, c'est se targuer d'embaucher 130 000 personnes dans son entreprise alors qu'il n'en embauche que 3 000 en France. C'est pas à un moment donné œuvrer pour la France. C'est complètement un discours monté pour essayer d'être en gros populiste, comme on le sait très bien. Il confond le pouvoir d'achat des Français et le bénéfice qui, grâce au système de consommation, il fera pour son propre groupe. Il confond aussi également une économie orthodoxe et autoritaire, qui est aujourd'hui l'économie néolibérale et formaliste comme on la connaît, avec un autre type d'économie qui serait basée beaucoup plus sur les relations sociales, etc., ou l'économie que vivent les gens tous les jours quand ils n'ont pas notamment les mêmes moyens économiques que Bernard Arnault. Et ça serait plutôt une économie du partage, cette économie que beaucoup de gens aimeraient vivre à la place de cette économie carnivore qu'est le capitalisme ou aujourd'hui le néolibéralisme, etc., etc. Ce qui est dommage pour lui, c'est qu'en fait, il nous dit aussi que, en gros, aujourd'hui en France, on ne subventionnerait que ce type d'économie dite substantive, etc., qu'on mettrait de l'argent que pour ça, alors qu'il faudrait aller vers plus d'économie libérale. Mais oui, bien sûr, mon très cher Bernard Arnault. Et l'économie néolibérale, c'est quoi ? Ah mais il me met en colère, hein, je suis désolée, mais l'économie néolibérale, c'est quoi ? Quand on parle de mondialisation, et c'est ce qu'a fait Bernard Arnault, il a parlé de mondialisation en disant « c'est très bon pour tout le monde, etc. » Sauf que Bernard Arnault, il a oublié une chose. Il a oublié qu'il y a des théories de la dépendance qui ont été écrites depuis longtemps par Amin. Il y a les théories, en fait, écrites par Wallerstein sur le système monde. Il y a les théories critiques du développement, etc., qui montrent qu'on est dans un système cannibale aujourd'hui. Alors peut-être que les intellectuels ne se placent pas totalement comme ça, mais ils le disent quand même. Et Bernard Arnault, qu'est-ce qu'il devrait faire ? Je pense qu'il devrait lire des livres. Pourquoi ? Parce qu'il est devenu, et ça on peut le dire très clairement, le prêtre de la plus grande religion mondiale, le néolibéralisme. Alors Bernard Arnault, vous dites qu'on n'est pas rentré dans la modernité parce qu'on n'est toujours pas dans une économie libérale. Moi j'ai envie de vous dire Nous n'avons jamais été modernes, mon très cher Bernard Arnault. En fait, tout simplement, depuis un moment, on nous fait croire que l'économie peut rouler toute seule, etc., alors qu'elle est toujours liée au social, toujours liée au politique. Et heureusement que Bruno Latour nous a appris à réfléchir sur la question des réseaux.
Donc avec un team de Bernard.
Avec Bernard Arnault, on ne sait jamais si c'est du lard ou du cochon. Et bon, bah, on va parler des cochons. Et notamment de ceux qui défilent aujourd'hui dans les rues de la République. Donc vous l'aurez reconnu, la police, si c'est pas un bloc monolithique ou un ramassis de pourris, de corrompus, si quelques âmes honnêtes palpitent sous l'uniforme et sous la crosse du flingue, en témoignent les guerres sourdes que se livrent les services en interne, il n'en reste pas moins que le capital, qui s'incarne dans le politique et la hiérarchie poulaga, ne peut tolérer le dévoiement des missions essentielles de la police, surveiller et punir. Ils sont donc tous pourris, mais pas pour les mêmes raisons. Passons sur les Squarcini, les Nérets, sur le numéro 1 des stupes qui se fait virer parce que ses services ont importé plus de drogue sur le territoire que ce qu'elles ont saisi. Passons sur l'ordinaire de la police, sur les bavures, sur Adama Traoré, sur les comas, les yeux crevés en manif, sur Rémi Fraisse, et surtout sur tout ce qu'on ne nous dit pas. Passons sur l'inefficacité crasse de la police concernant notre sécurité et arrêtons-nous sur cette frange, pour l'instant minoritaire, croisons les doigts, la plus dévouée, la plus française, qui manifeste en armes, cagoulée, parfois en uniforme, en chantant la Marseillaise et en marchant ici ou là sur l'Élysée, sur les préfectures, sur les palais de justice, bref, sur le pouvoir républicain en proclamant la revalorisation du flic dans la société et surtout le permis de tuer. On a donc depuis le 17 octobre des agents de police cagoulés en uniforme qui manifestent contre le gouvernement et les symboles de la République. À Lyon, ville cato, ville bourgeoise, on se tape le petit record de jeudi soir avec 800 délinquants de la police qui marchent et crachent sur le serment de servir et faire respecter la loi. Ça fait donc une semaine pile poil que les Condés sont sortis et font, Dixit France Inter, leur nuit debout. Alors aujourd'hui, la mobilisation a un peu baissé, dans le sens où il n'y a rien eu à Paris, mais seulement à Marseille, Nice, Nancy, Boulogne, etc. Mais on ne peut rien prédire, et il faudra suivre, parce qu'ils appellent à manifester demain, mardi. Donc ces manifestations, qui nous font un peu penser aux marches de février 1934, sont unanimement présentées par la presse comme un mouvement de grogne, un mouvement presque légitime de braves fonctionnaires aux prises avec le partage en couilles du monde. Bon, cette presse, on sait à qui elle appartient et les intérêts qu'elle sert. Ce qu'on comprend moins, c'est pourquoi elle ne fait pas ou peu mention du caractère illégal de ces manifestations et surtout du danger que cela représente pour notre démocratie, aussi bourgeoise soit-elle. Car il faut le dire, ça la fout mal pour le gouvernement qui semble ne plus rien contrôler du tout. Fini les postures autoritaires du Roquet Valls, fini Hollande chef d'État de l'année, on a là un État incapable de balayer sous sa porte, en train de perdre le contrôle du monstre qu'il a lui-même créé. Bon, quelles sont les revendications ? Les mêmes que dans tous les services publics. Du matos, des conditions de travail, des rémunérations. Mais on a aussi des demandes beaucoup, beaucoup, beaucoup plus craignoses. Déjà, le permis de tuer, doucement appelé légitime défense. Ensuite, plus insidieux, la revalorisation du statut et de l'image des flics dans la société. Qu'est-ce à dire ? Alors, pour le permis de tuer, déjà, il faut, enfin, la légitime défense, il faut dire que ça sert à rien. Et c'est même dangereux pour les policiers, parce que s'ils se mettent à défourailler tout caisse, et ben, en face, ça va tirer aussi. Et surtout, ça va contre une police de proximité, ça se rapproche d'une police milice. Pour la revalorisation du statut, et quoi ? Il faudrait que chacun soit un putain de héros sous prétexte qu'il n'a rien trouvé de mieux pour toucher ses 2000 euros. Comme s'il y avait une vocation dans la police, et surtout, comme si la police était là pour nous protéger. Alors c'est vrai qu'on lui en demande beaucoup à cette police, puisque son rôle principal est de défendre envers et contre tous un pouvoir inique et la propriété bourgeoise, une société d'exploitation. Ces derniers temps, entre les attentats, le Vigipirate, le rôle d'état d'urgence, le mouvement social, nos poulets sont fatigués. Ils travaillent trop, comme un Véry Châtillon, où on leur demande de devenir un appendice souffreteux du contrôle cybernétique de la société. Bon, il ne faut surtout pas oublier qu'ils sont employés par l'État, et qu'à ce titre, leurs conditions de travail et de rémunération se dégradent, au gré des plans d'austérité et d'ajustement structurel. Comme tout le monde, ils en prennent plein la gueule. Concernant la dangerosité de leur métier, il faut arrêter de se foutre de la figure du monde. Il y a sûrement plus de peintres en bâtiment qui meurent d'une chute d'échafaudage, des paysans de leur cancer que de flics pendant leur service. Ce qui n'en fait pas un des métiers les plus dangereux. Par contre, il y a beaucoup de flics qui meurent, effectivement. Et oui, parce que la première cause de mortalité chez les flics, c'est le suicide.
C'est d'ailleurs pour cette unique raison qu'on avait décidé de leur retirer leur arme de service, pour qu'après le taf, ils évitent de se coller une bastos dans le buffet. Donc avec l'état d'urgence et les délires sécuritaires, on leur a rendu l'arme à la maison, d'où une recrudescence des suicides. Ceci nous montre bien qu'à défaut d'être un métier dangereux, c'est bien un métier pourri, dans lequel l'individu est broyé, nié, aliéné, pour servir à une des pures crapuleries de notre temps, à savoir la survie des régimes capitalistes impérialistes. Pour finir, on sait tous que la... Alors on me demande de me dépêcher. Pour finir, on sait tous que la flicaille ne disparaîtra qu'avec la bourgeoisie, lorsque les gens de bonne volonté se serreront les coudes et feront la révolution sociale. Mais en attendant, on n'est vraiment pas chaud de leur donner un blanc-seing pour nous tuer, et on préférait au contraire que leur arsenal soit réduit, ainsi que leur usage et leur culture de la violence. On préférerait également que la police, chargée de faire exécuter la loi, lui soit soumise et la respecte autant qu'elle la défend. Contrairement à Saint-Étienne, une manif déposée en préf s'est vue interdite suite à ce mouvement illégal, fasciste, dangereux, que tout le monde doit condamner et malheureusement se préparer à contrarier.
Ouais, donc du coup, samedi, le préfet de la Loire a invoqué le désormais sacro-saint contexte d'état d'urgence, mais aussi, je cite, la répétition d'actions violentes, dont certaines particulièrement graves, récemment perpétrées à l'encontre des fonctionnaires de police et des précédents troubles importants à l'ordre public. Donc là, il fait sans doute référence aux milices armées qui se baladent le soir en ville en ce moment sans aucune autorisation préalable et pendant leur service. Donc le collectif Désarmons la police, qui est à l'initiative de l'appel du rassemblement de ce week-end, a signé la préfecture en référé pour contester l'interdiction. Donc pour info, c'est le même collectif qui avait déjà mobilisé l'année dernière à Pont-de-Buy dans le Finistère, là où est implantée l'usine Nobel Sport qui produit tout un tas d'armes pour nous réprimer. Alors pourquoi Saint-Té cette fois-ci ? Parce qu'en fait, à Saint-Étienne, c'est pas juste la glorieuse ASSE, c'est aussi la capitale française de l'armement. L'usine Vernet-Caron y sévit depuis 1650 et produit massivement pour le compte de l'État. C'est cette usine justement qui produit d'incontournables amis de nos manifs, donc la grenade de désencerclement entre autres, mais aussi le flashball. Donc ces armes dites à létalité réduite, c'est-à-dire qu'au pire t'es juste un petit peu mort, ont quand même fait des dizaines de mutilés depuis les années 90. Quelques morts, en 2010 par exemple, un homme est décédé suite à un tir de flashball dans le thorax. Donc pour rappel, en 2009, la direction centrale de la sécurité publique avait rappelé la proscription de viser au niveau du visage ou de la tête et la nécessité d'une utilisation proportionnée. Donc ça fait une belle jambe aux nombreux camarades qui ont perdu leurs yeux ces dernières années pendant des manifs. Et pour ceux qui ont un peu traîné dans les manifs contre la loi travail, on peut légitimement s'interroger sur le sens de la proportion des flics. Donc à quelques jours de l'anniversaire de la mort de Rémi Fraisse, et quand on sait que le bras armé du capital fait désormais joujou avec un LDI, donc pour info c'est le nouveau jouet de la police, une sorte de fusil laser aveuglant qui a été utilisé à Calais récemment, la manif tombait plutôt à point. Alors malgré l'injonction préfectorale, elle s'est bien tenue. Elle a réuni près de 500 personnes qui venaient d'à peu près partout en France, notamment Awa Traoré, la sœur d'Adama qui a été tuée cet été par les flics. Donc il y avait un important dispositif policier mobilisé, mais qui s'est contenté en fait de protéger le centre-ville. Il faut savoir que la préfecture avait mené campagne auprès des commerçants et des habitants de la ville pour leur conseiller de fermer leurs magasins et de rester terrés chez eux. Donc la manif a quand même pu faire un bon petit tour dans la ville en s'attaquant parfois à des cibles du capital ou aussi au local du Parti Socialiste, avant de se terminer par un grand feu de joie. Donc un flashball en papier mâché qui a été brûlé à la fin de la manif. Donc sans surprise, la presse locale a fait ses gros titres sur l'état de siège de la ville et les dégradations. De notre côté, surtout, on n'oublie pas Malik, Ziyed, Bouna, Rémi, Ali, Adama et toutes les victimes de la police. On n'oublie surtout pas que l'industrie de l'armement fait son beurre sur les guerres impérialistes de la France et surtout ses morts. Et que chaque jour en France, ce sont les plus pauvres d'entre nous qui sont les victimes dans l'impunité la plus totale pour les flics, malgré ce qu'ils veulent bien essayer de nous faire croire.
Et qu'est-ce qui fait suite à la répression policière ? C'est la répression judiciaire et pénitentiaire. En effet, aujourd'hui, on fête l'anniversaire de l'arrestation... Enfin, en fait, pas trop. Mais en tout cas, c'est l'anniversaire de l'arrestation de Georges Ibrahim Abdallah, qui est le plus ancien prisonnier politique en France et en Europe. Il a été arrêté il y a 32 ans, le 24 octobre 1984, à Lyon. Et donc, il était militant communiste et membre d'organisations communistes et ou révolutionnaires au Liban, en Palestine et en Syrie. Son arrestation a été suite à l'assassinat de l'attaché militaire des États-Unis Charles Drey et du responsable du Mossad Yaakov Barsinantov en janvier en avril 1982. Donc c'est des histoires qui remontent. Hein. Donc le militant s'est retrouvé incarcéré à l'origine pour une histoire de faux papiers qui n'était pas vraiment faux puisqu'ils étaient délivrés par les autorités algériennes. Il est ensuite inculpé pour détention d'armes et d'explosifs donc pendant 4 ans. Mais ça ne se finit pas là, puisque sa peine est prolongée lorsque la direction de la surveillance du territoire, donc la DST, découvre une arme dans son appartement qui le relierait aux deux assassinats. Il est alors condamné à perpétuité en 1987, alors que le procureur général ne demandait que 10 ans. Qu'une peine de 10 ans. Donc... À partir de 2003, sa libération est autorisée par la juridiction régionale de libération de Pau, mais il reste incarcéré de par la pression politique du ministère de la Justice, alors dirigé par Dominique Perben. Donc en fait, depuis, il fait régulièrement des demandes qui se suivent, des demandes de libération conditionnelle qui se suivent de demandes en appel, et donc il se retrouve dans diverses procédures qui sont délayées puis refusées. Donc c'est régulièrement ce qui arrive. Et donc dans un micmac judiciaire qui traduit des pressions politiques diverses sur le système judiciaire, lui-même sous pression du ministère, qui est quant à lui sollicité par les États-Unis et Israël pour continuer la détention de Georges Ibrahim Abdallah. Et récemment, donc en février, l'ancien patron de la DST, Yves Bonnet, a lui-même admis que garder le prisonnier incarcéré était une aberration. Et il déclarait en début d'année, en février, la France se grandirait en libérant Georges Ibrahim Abdallah.
Alors, au niveau de Calais maintenant. Du coup, aujourd'hui a débuté à Calais l'évacuation de la dite jungle de Calais. Une opération de grande ampleur avec 1250 policiers présents et 700 accréditations de presse. Selon la préfecture, il y a 6400 migrants sur la jungle et 8800 selon les associations. Ceux-ci vont être acheminés dans 280 centres d'accueil et d'orientation, CAO, à l'exception des 1291 mineurs isolés pour qui la situation reste floue. L'évacuation durera 3 jours et à partir de demain, le démantèlement commencera. Il demeure de nombreuses inquiétudes face à cette opération tenue de front par le gouvernement qui paraît précipitée. En effet, comment assurer un suivi juridique, sanitaire et social de qualité dans des CAO improvisés aux quatre coins de la France? De plus, le démantèlement aura lieu, mais comment accueillir les migrants qui continueront à arriver désireux de passer en Grande-Bretagne, sans proposer de structure d'accueil à Calais? Certaines associations présentes sur la jungle s'expriment à ce sujet. Écoutons les paroles de l'Auberge des migrants, de Médecins du Monde et d'Utopia 56.
Il y a un stress, il y a une pression énorme, il y a aussi de plus en plus de pression pour aller en Angleterre. Les gens savent qu'ils ont jusque lundi, après ils ne savent pas trop ce qui va se passer. La difficulté, c'est que ces gens, il faudra avoir le temps de leur demander à chacun de quoi ils ont besoin, quel est leur avenir. On veut faire quelque chose de grandiose, on emmène 10 000 personnes en 2 jours, on évacue un camp énorme en 2 jours pour montrer qu'on sait le faire. Mais tout est faisable, mais quand on s'adresse à des êtres humains, si on a le temps, c'est quand même plus humain.
Justement, après le démantèlement, qu'est-ce qui se passe? Parce que donc on a compris que les autorités voulaient démanteler complètement à la fois le bidonville et le CAP, donc il ne restera plus de structure pour accueillir les personnes, et on sait pertinemment qu'il y aura toujours des personnes qui vont venir à Calais pour essayer de passer en Angleterre. Donc on est très inquiet par rapport à la suite du démantèlement, est-ce qu'il y aura des structures ou pas pour accueillir les personnes. Et on l'a vu après Sangatte, hein, c'est ce qui s'est passé, c'est pas en détruisant le camp que le problème se résout de lui-même, il faut des solutions à long terme. Le simple démantèlement ou la destruction des installations ne sera pas suffisante pour régler la question.
Concrètement, le gouvernement est quand même allé très vite pour trouver ces places. On n'a pas de preuves qu'ils ont vraiment ces 7000 places. Et jusqu'à présent, c'était des départs progressifs. Donc dans des CAO qui étaient préparés avec des groupes entre 20 et 50 personnes. Donc c'était gérable. Là, maintenant, c'est, ils vont faire partir les gens par bus de 50. Et vu les centres, vu la vitesse à laquelle ils ont trouvé les centres, c'est pas forcément des endroits prévus. C'est souvent des centres de vacances désaffectés, des locaux abandonnés, qui vont réhabiliter pour l'occasion. Mais on n'a aucune garantie comme quoi il y aura des bonnes conditions d'accueil et un respect des droits. Donc on a besoin aussi de ces volontaires pour surveiller ces centres, être, faire de la vigilance citoyenne et être sûr que le gouvernement fait vraiment son travail.
Donc voilà, un petit point par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc à midi, 17 bus avaient quitté Calais, acheminant 711 migrants dans cette région française. Et au niveau local, 185 migrants arriveront dans le Rhône, où l'accueil est toujours controversé, notamment avec un appel du FN pour faire une manifestation anti-migrants à Condrieu, samedi prochain. Donc voilà, restons vigilants, solidaires et mobilisés face à l'accueil des migrants.
Alors le froid approche, comme chaque année, il faut faire vite avant la trêve hivernale pour libérer des places et remettre à la rue ceux qui abusent des aides de l'État pour vivre au chaud. Alors on met qui dehors ? Étrangers, familles, personnes ? En attente de logements sociaux ? Les heureux élus cette année sont un couple de 60 ans, sans aucune ressource, qui viennent d'être sortis de l'hôtel où ils étaient hébergés. Après des années de galère, les voilà de nouveau sur le trottoir. Ils se croyaient à l'abri ? Eh bien non. Mais ça va, le froid n'a jamais tué personne. Ah si.
Voilà donc le slogan qu'on a beaucoup entendu au printemps 2011, notamment Place Tahrir au Caire, et qui signifie « Le peuple veut la chute du régime ». C'était le début du printemps arabe. Mais là, c'était samedi 8 octobre dernier, Place des Terreaux à Lyon, et en fait, il n'y avait que quelques dizaines de personnes, nous a rapporté Élise, notre envoyée spéciale, qui s'était rendue sur place. Alors on peut se demander pourquoi la cause syrienne mobilise si peu alors qu'elle est particulièrement sanglante. Elle aurait fait déjà pas loin de 500 000 morts. 500 000 morts, soit l'équivalent de toute la population lyonnaise. On dirait que ces chiffres n'ont plus beaucoup de sens. Alors pourquoi ? Je ferai deux hypothèses. La première, c'est que l'opposition syrienne, démocratique et laïque, qu'elle soit là-bas ou exilée, a un mal fou à se structurer et à parler d'une même voix. En même temps, après 40 ans de régime répressif d'état d'urgence et plus de 5 ans de massacres, comment pourrait-il en être autrement ? Et oui, 5 ans déjà que le peuple syrien s'est soulevé à partir d'un geste d'adolescent qui avait écrit sur les murs le fameux slogan « Le peuple veut la chute du régime », dont l'arrestation et la torture a été l'étincelle qui a embrasé le pays. La deuxième hypothèse, c'est que le développement de l'islamisme, observé en réalité seulement 2 ans après la révolution, nous fait tellement peur qu'il annihile notre capacité d'empathie avec le peuple syrien. Alors il faudrait rappeler que le régime de Bachar el-Assad, ou de son fils, ou de son père plutôt, est responsable de plus de 95% des morts de son propre pays, et que brandir cet argument pour ne pas protéger le peuple syrien est fallacieux. On a donc voulu ici, au studio de Radio Canu, donner la parole aux réfugiés politiques, les chanceux, si on peut dire, qui ont obtenu l'asile et que nous avons, nous aussi, eu la chance de rencontrer. On a d'abord rencontré Mazen avec l'appui de Nazem, qui est arrivé il y a 2 ans à Lyon et qui malheureusement ne maîtrise pas assez le français pour être avec nous dans le studio. On l'a donc enregistré et traduit ses propos.
Samedi 15 octobre, je suis à la table d'Althusser, rue Paul Bert, chez Bader, et j'attends mes invités impatiemment. Nazem, dont on m'a beaucoup parlé, qui devrait être accompagné de Mazen, qui va m'aider pour la traduction. Et on entend Férous dans le restaurant d'Althusser.
Bonjour.
Voilà Mazen.
Je suis réfugié politique en France. Je suis politique normalement.
Oui, vous êtes engagé politiquement déjà oui. en Syrie.
Oui. Mmh. J'ai passé en prison 11 ans.
11 ans en prison.
Oui, c'est ça. Le dernier 5 ans dans prison Palmée.
La Palmière.
Mmh. Oui.
C'était une des pires, non, de la Syrie.
Oui, oui. Comme Guantanamo, comme Abu Ghraib. Je suis normalement ingénieur, génie civil. J'ai besoin de partir à mon pays pour sauver mon fils. Juste ça.
Parce que votre fils était menacé.
Oui, oui. Parce que mon fils est petit.
C'est le point faible.
Le point faible pour point nous. Faible.
Oui, ouais. Sa femme.
Il a quel âge?
Il doit avoir 6 ans.
Il croit que arrêter la guerre, c'est la première étape pour l'avenir de la Syrie. Sans condition. Bon, il faut arrêter la guerre parce que c'est les Syriens qui payent tout ça. Et c'est eux qui manquent. Parce qu'il croit qu'en arrêtant la guerre, les Syriens qui n'ont pas porté des armes peuvent s'engager pour reconstruire le pays. Il croit que le peuple français ou mondial, on va dire, il faut qu'il exerce une pression sur le gouvernement pour s'engager pour arrêter la guerre. Il croit que le monde civil ici en France et ailleurs, il est organisé d'une manière qu'il peut s'organiser pour exercer un peu plus de force sur le gouvernement pour avoir modifié leurs oppositions, même un petit peu en fait, pour les aides humanitaires. Il va parler sur ce sujet et il croit que le peuple syrien est capable de reconstruire leur pays, qu'il soit démocratique et laïque, pour qu'il puisse un jour avoir une vie meilleure, une vie comme ils veulent, la démocratie, démocratie et voilà.
La démocratie allemande.
Les extrémistes musulmans en ce moment en Syrie, la cause de ça, c'est la continuation de la guerre.
Oui.
C'est lui qui encore rajoute sur une couche sur l'extrémisme musulman. Et la cause avant tout ça aussi, c'est le régime. Mais le problème maintenant, c'est pas que le régime. Il y a le régime, il y a les mouvements islamistes, extrémistes, comme Daesh, comme Al-Nusra, comme Ahrar al-Sham, Jeune de Sham, Jeune de l'Aqsa, tout ça en fait. Tous ces mouvements religieux extrémistes.
Et comment on fait aujourd'hui l'opposition qui n'est pas islamiste ? Pour s'organiser, est-ce que c'est possible encore en Syrie?
Quand la guerre s'arrête, tu vas trouver que, comme on avait parlé tout à l'heure, que les Syriens, les oppositions civiles, ni islamistes, ni extrémistes, ni civils, nationaux, sont là. Quoi. Ces gens sont toujours là, les policiers. Mais. Ils peuvent intervenir une fois qu'ils s'arrêtaient la guerre. Parce que maintenant, le bruit des armes et de la guerre, c'est plus fort qu'eux. Ils travaillent toujours, ils n'ont jamais apporté des armes.
Ils écrivent.
Voilà, ils travaillent toujours, mais on n'éclaire pas en fait la lumière sur eux. Pour le monde entier maintenant, c'est la guerre, c'est les armes. Quoi.
Mais ils échangent entre eux, ils communiquent entre eux.
Oui, il y a un, mais moi je vais rajouter un truc là. En fait, l'opposition, elle n'est pas un organisme vraiment bien organisé.
Ouais, c'est ça.
Donc c'est des personnes comme ça, libres.
Voilà donc un extrait de l'entretien qu'on a eu avec Mazen. 11 ans de prison sous le régime d'Assad. Ça paraît impressionnant comme ça, mais c'est presque commun pour toute personne qui a été opposée au régime, et même pour un simple sympathisant qu'on qualifierait de gauche. On a dans le studio ce soir Bader, donc, qui nous avait accueillis au restaurant La Table d'Altisser qu'il a monté rue Paulbert, et qui va pouvoir témoigner en direct. Et puis Elisabeth, qui est donc française, sociologue à Abizante, qui a vécu longtemps au Liban et en Syrie, et qui est aujourd'hui très mobilisée pour soutenir le peuple syrien, qui va témoigner notamment sur l'action de l'association Alouane. Alors Bader, toi tu m'as dit ne pas avoir été spécialement engagé politiquement, mais tu étais sensible aux causes, disons, communistes ou de gauche. Et simplement pour cette orientation politique, tu as toi aussi fait pas mal d'années de prison. Tu peux nous raconter en quelle année ça s'est passé et comment ça se passait en prison?
Tout ça. Bonsoir.
Bonsoir.
Tout ça. Oui, comme je te dis, j'ai rien faire comme ça, mais je pense à gauche, c'est la question. Où
tu avais, disons, une orientation de gauche et.
Oui, je pense comme ça, j'écris, je parle, mais j'ai rien faire. Parce que on a parlé, on a écrit, on a dans les journaux, comme ça. Mais on n'a rien fait autre chose. Mais c'est pour ça que je suis resté dans la prison pendant 7 ans. Et,
donc tu as fait 7 ans de prison et tu as été arrêté en quelle année?
Oui, de 1987 jusqu'à 1994. Mmh. Oui, c'est pour mon avis, c'est juste mon avis, juste une petite parole. Oui, j'ai rien fait.
Voilà.
Mais
tu disais que 87 c'était une année noire pour tout communiste ou disons sympathisant. Mmh. Il y a eu des rafles épouvantables.
Oui, oui, je pense comme ça, ou je crois ça. Il y a plusieurs choses, mais En Syrie, toujours, c'est le gouvernement policier. C'est clair pour tout le monde. On a vivre sous la table, peut-être, ou caché toujours. Rencontrer dans les chambres, dans les maisons comme ça, en secret, parce que la police politique, il est arrêté tout le monde comme ça. Mm-hmm. Tout le monde. Si on ne parlait pas, nous sommes avec toi, ou avec vous.
Il suffisait de ne pas être pour le régime pour être susceptible d'être arrêté.
Ça, tout le monde.
Et alors, ce qui est fou dans ton histoire, c'est que tu as fait quand même 7 ans de prison, mais tu as été jugé seulement au bout de 5 ans, en fait. Ça fait 5 ans de rétention provisoire, si on peut dire.
Oui, mais oui, après le prison, je le vis comme l'habitude. J'ai travaillé comme bénévole à autres événements culturels.
Non, mais oui. Mais je veux dire, tu as fait 5 ans de prison sans avoir été jugé. Oui. Et finalement, au bout de 5 ans, ton jugement, la procédure a commencé. Et au final, on t'a innocenté. Et c'est comme ça que tu es sorti après avoir fait 7 ans de prison. C'est ça que tu m'as raconté. Mmh. Il est un peu troublé par... le micro et la langue.
Non, libre.
Voilà, tu as été innocenté.
Coupable. Voilà. Sans coupable.
Voilà.
Non, c'est pas... C'est, oui, le tribunal pendant 5 années. Oui, ouais, maintenant. Maintenant, je comprends.
On avait répété
Elisabeth,
avant.
Elle m'aide moi.
Ouais, Elisabeth nous aide pour la traduction. Et Avant de parler de ta sortie, ce que tu m'as raconté aussi, c'est que pendant la prison, alors toi, tu n'étais pas à Palmyre, tu étais dans des conditions un peu moins dures, on va dire. Oui. Vous n'étiez que 40 par cellule. Oui. Mais tu as profité de tout ce temps-là pour lire et pour développer une activité.
Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de choses dans le prison. Il y a beaucoup de choses. C'est très bien, les livres, les magazines, on a beaucoup de comme ça. Plusieurs, j'ai lu beaucoup de livres, j'ai lu l'histoire l'histoire de civilisation. Tout c'est un grand livre, peut-être donc des 1000 pages. Oui, j'ai lu Freud et Jung et Bachelard et Roland Barthes et Nietzsche et Althusser encore, oui, c'est Althusser, oui. Je le trouve dans la prison sur ses livres.
Mais parlez-nous du théâtre alors.
Ah, le théâtre c'est avant la prison, j'ai l'expérience. Oui, et après j'ai continué dans le prison parce que dans le prison l'âge de la personne c'est
ils étaient plus jeunes que toi.
Plus jeune, tout le monde c'est plus jeune. C'est moi et quelques personnes plus âgées. À ce moment-là, j'ai 30 ans. Oui. Mais l'autre, 20 et 18 ans, 20 ans, comme ça. Et j'ai fait plusieurs pièces de théâtre comme mettre en scène. Et j'ai fait une équipe de théâtre. Et on a présenté six pièces, et j'ai fait plusieurs des chansonniers encore, en plus.
Donc tu as monté des pièces, tu as transformé en fait les autres prisonniers en comédiens, il y avait même des accessoristes, les maquilleurs, et vous avez monté les pièces.
Le décor, le maquilleur, tout ça, le vêtement, c'est le costume.
Et c'était des pièces, c'était pas n'importe lesquelles, évidemment. Vous aviez choisi des textes qui étaient...
Oui, j'ai choisi des textes. Toujours, en principe, le sujet, c'est le tribunal. C'est le tribunal.
Le
jugement. Toujours. Le sujet, en principe, c'est le jugement.
Voilà, ouais. Des textes un peu satiriques, politiques, qui critiquaient les tyrans, qui vous parlaient, en fait.
Oui, c'est pas directement comme ça. Le texte, c'est un bon texte mondial. Voilà. Oui, un bon lecteur mondial, comme Alfred Jarry, comme Grigori Gorin, comme Dino Bozzani, comme l'italien, c'est le Commedia dell'Arte. Ou dit l'arte en français, je ne sais pas. Comment le dirais-je?
On fera une petite lecture tout à l'heure. Oui. Et ce que je voudrais dire, comme malheureusement le temps court à la radio, plus vite que ce qu'on croit, c'est que simplement pour parler aussi de ton arrivée en France, donc toi tu as eu la chance d'avoir l'asile relativement facilement, mais ce qui m'a choqué quand tu m'as raconté ton histoire, c'est que en fait tu ne pensais pas du tout à l'Europe au départ, parce que tu pensais que c'était très très difficile.
Oui. Oui, je pense d'abord, je pense que c'est très difficile. J'essayais vers le Brésil, les îles de Comores, comme ça, mais je n'ai pas reçu la réponse. Mm-hmm. Après, j'essayais avec le gouvernement français, j'envoyais mon dossier et... peut-être j'ai la chance ou peut-être mon dossier c'est plus fort et plus sérieux encore, et donc deux mois Ils ont envoyé le visa et ils ont accepté ma demande.
Donc toi, tu as eu ton visa assez rapidement, mais ce que tu me disais, comme quoi c'était pas du tout l'Europe que tu pensais en premier, et même la France, ça m'a interpellée. Et du coup, je suis allée chercher les informations sur les demandes d'asile en Europe. Oui. Et effectivement, en fait, beaucoup de demandeurs d'asile, en fait, ne se tournent pas vers la France en premier parce qu'on a une mauvaise réputation.
Oui, je pense comme ça.
Et voilà, et ton histoire est assez symbolique de ce point de vue-là. Et du coup, j'ai cherché les chiffres. Et effectivement, en tout cas sur les demandes d'asile européennes, seulement 1,3% s'adressent à la France pour leur demande d'asile.
Oui,
donc voilà, sur... Alors on peut ensuite remercier les services... De l'instruction des demandes d'être relativement rapide, parce qu'en fait, c'est paradoxal, mais ils ne sont pas submergés.
Oui.
Alors, je voulais donner la parole aussi à Elisabeth pour qu'on parle de ce qu'on peut faire ici à Lyon pour soutenir le peuple syrien, et notamment à travers l'association Alouane. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer déjà ce que signifie Alouane et son action ?
Alors Alouane, ça veut dire couleur au pluriel en arabe. L'association Alouane a été créée en 2012, précisément pour aider les enfants qui souffraient de l'exil, des traumatismes liés à la violence et à la guerre. Et donc ça a été créé par des Syriens et des Français, mais à l'initiative d'un artiste et d'un musicien syrien qui avait gardé des relations avec des amis, qui était lui-même réfugié d'ailleurs depuis longtemps, qui avait gardé des relations avec des amis eux-mêmes musiciens ou artistes peintres. Et donc voilà, et qui lui ont lancé un appel en fait, en quelque sorte, et donc il a commencé à organiser des événements pour recueillir de l'argent pour envoyer. Alors dans un premier temps c'était à Beyrouth, à Latakia, à Raqqa, et c'était plus particulièrement pour aider les enfants dans une perspective d'art-thérapie. Et puis il y a eu une évolution à la fois de la situation et de la situation du pays et de la situation des personnes, et en particulier Raqqa a été occupée par Daesh en 2013, si je ne dis pas de bêtises, et les amis avec qui l'association travaillait à Raqqa ont dû fuir d'abord en Turquie, et l'un des deux est arrivé ici, donc travaille avec l'association ici, et maintenant Alouane soutient surtout des projets de scolarisation à Latakia dans la région de Daesh. Et pour ça, on organise des soirées régulièrement. On a une collecte permanente, bien sûr, avec un site internet, alouane.org, et une page Facebook. Et on organise des soirées. Et la prochaine a lieu le 4 novembre à la Maison des Passages, à 20h30. C'est des soirées avec de la musique ou des films, qui sont à la fois avec un buffet, l'occasion de manger syrien, de rencontrer des Syriens. Ça a un côté festif. Et puis ça permet de discuter et de parler un peu de la situation en Syrie.
Alors effectivement, vous vous occupez des enfants qui ont été déplacés, parce que ça c'est un point qu'il faut souligner.
Oui, c'est vrai, c'est une chose que je tiens à rappeler. En général, on parle des réfugiés, et effectivement les réfugiés sont extrêmement nombreux, c'est-à-dire ceux qui ont quitté le pays, c'est un tiers de la population qui a quitté le pays, mais ceux qui sont restés dans le pays sont aussi en grande majorité maintenant des déplacés. C'est-à-dire des déplacés à cause des bombardements des villes de Homs, de Kousser, d'Alep, maintenant de Idleb. Les populations fuient leurs maisons sont détruites, ils fuient les bombardements, et ils vont dans les régions plus sûres, qui sont sous le contrôle du régime, ou des milices d'ailleurs alliées au régime, parce que le contrôle du régime, il reste... Il est loin d'être complet. Et dans ces régions, il y a des réseaux associatifs très importants. Donc ça veut bien dire aussi que dans ces régions, la population est loin d'être entièrement acquise au régime. Il y a des réseaux associatifs, et nous, on est en lien avec un de ces réseaux, et qui s'occupe des enfants déplacés, justement, avec des problèmes de logement, d'hébergement, d'approvisionnement, et surtout de scolarisation.
Voilà, donc on peut trouver toutes les informations sur le site de Alouane, Alwane. Et on propose, voilà.
Bien sûr.
Et on propose à Bader et Florence de nous faire un petit extrait d'une pièce qui avait été montée en prison en Syrie avec Bader.
D'accord.
Oui. Préciser qu'il s'agit du bureau.
J'ai l'honneur de vous annoncer que pour enrichir le royaume, je vais faire périr tous les nobles et prendre leurs biens.
Horreur ! À nous, peuple et soldats !
Amenez les premières nobles et passez-moi le crochet à noble, ceux qui seront condamnés à mort. Je les passerai dans la trappe où on les desservilera. Qui es-tu, Bouffre.
Comte de Vitek.
De combien sont les revenus ?
3 millions de rixdales.
Condamné.
Quelle basse férocité !
Excellent. Dans la troupe, trappe.
Tu es trop féroce, Père Ubu.
Ah, je me enrichir. Je vais me faire lire ma liste de mes biens.
Principauté de Podolie, Grand-Duché de Posen, Duché de Courlande, Comté de Sandormir, Comté de Vitek, Palatinat de Pollock, Margravia de Thorn.
Et puis après ?
C'est tout.
Comment c'est tout ? Je vais faire tuer tous les nobles et ainsi j'aurai tous les biens. Allez, passez les nobles dans la trappe. Dépêchez-vous plus vite. Je veux faire des lois maintenant.
On va voir ça.
Je vais d'abord refrôner la justice. Après quoi, nous procéderons aux finances.
Nous nous opposons à tout changement.
Merde. D'abord, les magistrats ne seront plus payés.
Et de quoi vivrons-nous ? Nous sommes pauvres.
Vous avez les amendes que vous prononcez et les biens. Le condamné, à moi.
Infamie, scandale, indignité. Que fais-tu, Père Ubu ? Qui rendra maintenant la justice ?
Tiens. Moi, tu verras comme ça marche bien.
Merci beaucoup. Et puis maintenant, place à l'agenda.
Alors, pour l'agenda de cette semaine, mardi 25 novembre, vous avez le collectif des salariés du foyer Notre-Dame des Sans-Abris à la Guillotière qui appelle à la grève et à un rassemblement le 25 octobre entre 11h et 15h devant le centre Gabriel Rosset. 3 rue Père Chevrier.
Jeudi, il y aura une assemblée générale à la Bourse du Travail à 18h30, notamment pour discuter des manifs de flics, mais aussi des élections présidentielles qui approchent.
Dans le cadre du mois de novembre libertaire, qui va se dérouler pendant tout le mois de novembre, vous aurez en avant-première, ce vendredi 28 octobre, à la librairie La Griffe, 5 rue Sébastien Griffe, la soirée autour du livre et documentaire sur le thème de l'IVG.
Et samedi, toujours à la Griffe, il y a la projection du documentaire Le Tata, paysage de pierre, en présence de la réalisatrice, et c'est à partir de 15h. Et pour ceux qui voudraient aller passer un petit peu de temps à la campagne, il y a une soirée de soutien dans le Beaujolais, samedi soir, à un maraîcher qui a été condamné à 7 500 € d'amende pour avoir réalisé des travaux pour son installation en maraîchage sans autorisation. Il est passé récemment sur Radio Canu. Donc voilà, c'est samedi à la salle des fêtes de Sens à partir de 18h.
On vous remercie tous d'avoir écouté ce Canu Info du lundi sur Radio Canu. Et on laisse le dernier mot à nos invités de la fin.
Alors Bader, c'est toi qui as le dernier mot.
Ah oui, merci pour votre accueil comme ça, et je souhaite que la paix, sans doute la Syrie c'est la terre de civilisation, c'est oui, mais je souhaite que la paix retourne à mon pays, et je veux remercier pour ce soir.
On le souhaite aussi. Merci à vous d'avoir été là.
Merci.